nouvelles contradictoires, Luc, sont sorties. René Kaigle, c'est un des deux types soupçonnés d'avoir abattu Ophélie Martin-Cyr. Oui. Tu sais, la jeune fille de 19 ans, là, qui est embarquée avec une de ses amies de 21 ans, avec René Kaigle et un autre gars qui, semble-t-il, était mêlé à des histoires de prostitution. Il prétendait que quelqu'un leur devait de l'argent, que les deux filles savaient peut-être où était le gars, puis ils les ont embarqués en char.
Tout ça demeure nébuleux.
Ah, ça reste très, très nébuleux. Écoute, on n'a toujours pas l'identité des deux cadavres qu'on a retrouvés dans une voiture incendiée, qu'on relie également à cet événement-là. Mais bref, le gars Kaigle...
C'est là que j'arrive pas à connecter la ferme, en fait.
Le gars Kaigle, il rentre en prison parce que on le soupçonne d'avoir froidement abattu dans le dos une jeune fille de 19 ans, puis d'avoir déchargé son arme vers une autre de 21 ans qui, elle, a réussi à se sauver.
Oui.
Et l'information qui circule depuis hier via TVA et l'agence QMI, c'est que Kaigle en a mangé toute une en prison. Il s'est fait bardasser.
Fait donner une volée
au point qu'il aurait été expédié à l'hôpital. Aujourd'hui, l'autre réseau d'informations reliées à la presse, là, le groupe GESCA et ses affiliés...
C'est plus GESCA, là, c'est Capital Média.
Capital Média, mais c'est aussi la presse.
Oui, parce qu'ils ont une affiliation.
En tout cas, ce groupe affilié-là là, prétend que ce n'est pas vrai, qu'il n'a pas mangé une volée, et il cite même la directrice des services correctionnels pour la Mauricie et le Centre du Québec qui dit non, il va très bien, il n'a pas mangé de volée. Mais peu importe, ce qui est frappant, là, c'est que les gens sont contents. À l'idée que Kaigle avait mangé une volée en prison, les gens, sur les réseaux sociaux, se réjouissaient.
Et que je trouve ça...
Et ça, je trouve ça très dur.
Je trouve ça barbare. Ouais. Comment peut-on se réjouir de ça?
Mais la loi de la jungle en prison, ça existe, ça a toujours existé. Pour moi, c'est un mystère.
Il y a même comme une morale qui englobe ça. C'est assez étonnant, venant de la part de criminels, de tueurs et de tout ce que vous voulez. Mais il y a des crimes qu'en prison, dit-on, sont jamais pardonnés par les autres prisonniers, que les gens qui sont là doivent être protégés constamment parce qu'ils vont y goûter.
On voulait parler de cannabis avec Jean-François Brochu, notre spécialiste des affaires policières. On s'est dit qu'on allait également nous faire expliquer cette loi de la jungle en prison. Bonjour, M. Brochu.
Bonjour, Mme Segal. Bonjour, M. Lavoie.
Oui, bonjour.
C'est pas impossible que Kaigle en ait mangé toute une. La question, c'est ils font quoi? Ils se mettent à trois dessus, puis les gardiens les regardent faire?
Oui, ben non. Il faut savoir comment c'est fait un centre de détention au Québec ou même les centres de détention fédéraux. C'est que les gens sont ensemble, on appelle ça être en population, sont ensemble dans ce qu'on appelle des wings ou des ailes. Et donc ces ailes-là sont séparées en deux par un mur au milieu. Il y a à peu près entre 7 et 10 cellules par côté gauche, mettons la 14 gauche, la 14 droite. Au bout de ça, il y a les portes d'entrée, il y a aussi le poste du gardien. Mais donc, quand les détenus ne sont pas en cellule, durant le jour, ils sont en salle commune, ils ont accès à leur cellule, ils peuvent être au gym ou en train de prendre une marche à l'extérieur. Donc, quand ils sont en population, il arrive régulièrement, je vous dirais que c'est, par exemple, prenons le centre de détention d'Orsainville, qui est quand même un centre de détention important, c'est presque à toutes les semaines là que les policiers de la sûreté vont se présenter là pour quelqu'un qui a été victime de voies de fait. Et dans certains cas, ce sont des voies de fait très graves.
Mais essayez donc de nous expliquer là, ce qu'on nous raconte depuis toujours, à savoir que il y aurait des types de crimes qui mènent à se faire donner une volée quand on est en prison. Est-ce que c'est vrai, ça?
Oui. Écoutez, on peut se donner bonne conscience avec ça dans certains milieux. Il y a aussi, bien sûr, les affiliations criminelles qui sont les sûrs que les indépendants ont de la difficulté qu'arrive le temps de les classer dans les centres de détention, parce que faut savoir que particulièrement si on remonte à la guerre des motards, ben il y avait vraiment dans les centres de détention tant provinciales que fédérales des ailes où on gardait soit les affiliés des Rock Machines et dans d'autres ailes les affiliés des Hells Angels, et dans aucun cas on permettait que les deux groupes se rencontrent, par exemple au gym ou sur la patinoire à l'extérieur l'hiver, on les séparait. Mais encore aujourd'hui, il y a différentes affiliations. Par exemple, au centre de détention de RDP, Rivière-des-Prairies à Montréal, on a les bleus et les rouges, les gangs de rue de différentes nationalités qu'on doit maintenir séparés. Puis bon, après ça, c'est sûr que dans certains cas, des individus, par exemple, comme le juge de Lille, M. Bissonnette, ici à Québec, là, ce sont des gens qui nécessitent normalement une protection spéciale. On les retire on les met pas en population généralement, mais ça prend leur accord.
OK, mais ça prend leur accord.
C'est-à-dire que, c'est ça. Ben, comme par exemple, quand on fait le classement, les individus peuvent... bien, encore une fois, ça dépend de l'évaluation de l'agent, là, mais il n'est pas impossible que quelqu'un refuse de par exemple, se faire mettre en protection. Et parce qu'ils ont des droits à l'intérieur de décider de ce qu'ils vont faire. Et donc, okay. ça peut amener, dans certains cas, des cas de voie de fait.
Comme on mais okay, pourtant, mais... là, les gardiens sont belles, ils sont présents, ils sont formés, ils sont professionnels. Pourquoi ça continue d'avoir des bagarres à l'interne quand même?
Bon, ben écoutez, vous savez qu'il y a toutes sortes d'individus qui se ramassent là. Hein? Il y a autant le monsieur qui s'est fait arrêter pour sa faculté affaiblie en fin de semaine, qui va se ramasser souvent avec un trafiquant de drogue et avec un individu qui a des problèmes de santé mentale, qui est violent. Tout ce monde-là, il n'est pas impossible qu'on se ramasse ensemble, par exemple au gymnase, parce qu'il n'y a pas de place en fin de semaine, donc ils vont vous placer au gymnase, dans certains centres de détention, c'est ça, sur des matelas par terre. Et il y a des individus extrêmement violents qui se ramassent là, comme messieurs Kegel et Cyr, là, je vous le dis, de Trois-Rivières, qui sont Martin. Impliqués dans l'affaire d'Ophélie, dont on parle, ce ne sont pas des enfants de cœur, ce sont des individus qui sont connus dans le milieu de Trois-Rivières, qui sont des individus violents, qui sont violents depuis leur tendre, je dirais pas leur tendre enfance, mais leur temps à l'école, là, à la polyvalente, ils étaient déjà des individus qui avaient des problèmes de comportement importants. Donc, il n'est pas impossible là, qu'on ait rencontré à l'intérieur des murs quelqu'un qu'on connaît, avec lequel on a une vieille grippe, là, et puis c'est bien certain que à ce moment-là, on se met 2, 3, 4, 5 sur un individu, comme, mettons, d'aigle, et avec... on va prendre une arme d'opportunité. Ça peut être nos poings, bien sûr, mais ça peut être aussi un poids, un haltère, ou ce qui est bien fréquent dans les centres de détention, c'est on met 3-4 batteries C dans un bas et on se sert de ça pour frapper la personne.
Et les C, c'est pas les plus grosses, les C, mais c'est les rondes, là, avec 3-4 batteries là-dedans.
Je donne l'exemple des C, là, mais ça dépend des appareils électroniques qui sont autorisés en dedans, parce que bon, il y en a qui ont différents. On a chacun notre dimension de radio, là. Okay. Et bon, et ça vient avec les batteries.
Mais OK, donc ils prennent les batteries d'un appareil, ils mettent ça dans un bas, puis ça leur sert de gourdin pour assommer voilà. quelqu'un.
Mais pourquoi est-ce que les gardes n'arrivent pas à mettre fin à ces affrontements-là?
Bon, ça, c'est une bonne question. C'est qu'effectivement, les gardiens sont dans une bulle, dans une cellule, dans le bout, dans un local pour lequel les détenus n'ont pas accès. Et ce local-là est fermé, mais ils ont des vitres. Les gardiens ont une vision, une vue sur l'ensemble des, entre guillemets, les wings, comme je disais tantôt, les ailes. Alors, le gardien peut surveiller deux ailes. Hein. Il va surveiller la aile, mettons, la 14 gauche, la 14 droite. Il va voir donc à peu près une vingtaine de détenus, 20-25 détenus. Alors, à l'occasion, la bagarre peut se présenter, peut commencer dans une cellule. Là, il ne voit pas. Et où on va faire un mur. Les détenus vont s'installer, par exemple, en conciliabule pour faire semblant de jaser ensemble, puis ils vont pour cacher la vue du gardien, puis pendant ce temps-là, d'autres vont passer à l'action. Ou tout simplement, s'il s'en aperçoit immédiatement, ben il y a toujours le temps d'intervention, le temps d'appeler les équipes d'intervention avant d'entrer dans la cellule, parce que il faut savoir aussi que les détenus, dans certains cas, sont assez imaginatifs. Et les gardiens doivent être toujours prudents quant à la prise d'otage ou à la tentative d'évasion. Donc, avant d'intervenir, ils doivent s'assurer d'être en mesure de le faire, de façon sécuritaire pour eux-mêmes, ça c'est certain. Et voilà, donc ça peut retarder effectivement le délai d'intervention.
Mais c'est vraiment une jungle, ça. Hein? Ah, c'est une jungle humaine.
Ben, écoutez, ça dépend dans quel secteur on va, mais il y a des secteurs, effectivement, où... Ben, on rencontre des individus extrêmement, je vous le dis. Ben, au centre de détention de Donnacona, qui est un max, là, monsieur oui. Lavoie, vous trouveriez ça intéressant à visiter.
Oui.
Sérieusement, là, il y a des individus là qu'on se demande comment un jour on pourra les remettre dans la société.
Je connais quelqu'un qui a été faire, à un moment donné, un 24 heures de prison. Il a juste fait 24 heures, c'était en attendant d'être libéré pour une broutille, là. Et il est sorti de là en disant, ce sont des animaux, je ne veux pas y retourner. À aucun prix.
J'emploierai pas ce terme-là, parce que c'est une façon de voir les choses, mais il y a des individus là-dedans qui ont des problèmes de santé mentale, et qui ont eu des puis je vous le dis, je suis un flic, là, je suis pas vraiment porté à être sympathique, là, mais il y a des gars là-dedans, il y a des femmes qui ont des passés assez difficiles.
Jean-François, je voulais qu'on parle de potes également, parce que demain, ce sera la légalisation. Et je me demandais, les policiers, on a parlé du problème de la drogue au volant, mais comment est-ce qu'un policier peut faire la différence entre le pot légal acheté à la SQDC et le pot illégal vendu dans la rue? Est-ce que vous avez des trucs? Est-ce que la loi vous permet de faire la différence, vous?
Ça sera pas possible, Mme Segal. Là, il y a différentes questions qui se posent pour les organisations policières, par exemple, de s'assurer du traquage, entre guillemets, de la marchandise entre l'usine de fabrication reconnue, il y en a plusieurs, on a une douzaine à peu près au Canada, entre ces usines-là et le marché. Mais dans le marché, dans les SQDC, les produits seront vendus dans des contenants réutilisables. C'est un choix que la SQDC aurait fait, semble-t-il, par mesure de pouvoir, parce qu'un contenant non réutilisable aurait provoquer une pollution, entre autres de la pollution, là, parce que c'est okay. Du plastique, des sacs. Mmh. Alors, donc, c'est un contenant réutilisable. Donc, à partir du moment où vous avez acheté une fois votre produit légal, vous avez votre contenant, vous l'ouvrez, il y a un seal, entre guillemets, là, une étiquette qui assure de la provenance de la marijuana ou de ce que vous avez acheté. Mais à partir de ce moment-là, vous pouvez le remplir à nouveau avec le matériel, le stock, entre guillemets, acheté de votre ami boucher de longue date, et personne ne pourra faire la différence.
Monsieur Brochu, là, moi, j'ai accroché sur quelque chose que vous venez de dire. Un traquage entre l'usine et, si je comprends bien, le commerce au détail. Est-ce qu'il y a une crainte que soit qu'on va enlever les camions, qu'on va les voler, qu'on va les attaquer, ou alors qu'il y ait de la collusion quelque part, puis qu'ils s'arrêtent le long d'une route, puis qu'ils en vendent un peu à d'autres. C'est quoi la crainte?
Bien, tout ça, ce sont des problèmes qui ont été soulevés. M. Lavoie, vous avez tout à fait raison. Ce sont des questions qui ont été posées par les organisations policières. Ce sont des questions qui se posent. Il y a également un autre problème qui est un peu à l'inconnu du public, là, c'est les permis pour faire pousser de la marijuana à des fins médicales. Mmh. Ces permis-là, au cours des dernières années, au cours des derniers mois même, à partir du moment où le gouvernement a confirmé d'abord son élection, puis la mise en place de la légalisation, les organisations criminelles ont multiplié les demandes de permis pour faire pousser du cannabis à des fins médicales. À l'aide de prêtres, non. Il y a des permis. Il y a des gens qui ont 8-9 permis. Parce que dans la loi, il était autorisé également, les gens étaient autorisés à faire pousser le pot ailleurs. Autrement dit, d'autoriser un tiers à faire pousser leur cannabis parce que, par exemple, dans la loi, il avait été prévu que quelqu'un qui reste dans une pièce et demie ne sera pas capable de faire pousser son pot à des fins médicales. On ne doit pas le priver de ce privilège-là. Donc, on va lui donner le droit de passer ce permis-là à quelqu'un d'autre.
Et Des sous-contractants,
voilà. Et il y a des sous-contractants qui ont jusqu'à 8, 9, 10 permis. Et ça, ces gens-là, ben, on ne sait pas où est, les policiers ne savent pas, les organisations policières ne savent pas où sont exploités effectivement ces permis-là. Et les adresses. Et ça, c'est prévu dans la loi par confidentialité, là. Donc, mais ça, ces permis-là, à mon sens, n'ont plus raison d'être, étant donné que tout ce pot médical-là, on va pouvoir le retrouver à la SQDC ou dans les autres organisations au Canada. Mais pour le moment, le gouvernement n'a pas touché à ça. Donc, ces permis-là, il y a du pot qui va se faire pousser de façon, entre guillemets, légale, mais c'est le crime organisé a déjà fait une demande d'une multitude de ces permis-là, et déjà, ces permis-là sont utilisés par le crime organisé.
En utilisant des prêtres, non, vous dites?
En utilisant des prêtres, non.
Les autorités qui donnent les permis sont pas au courant de ça?
Bonne question, faudrait leur demander. Écoutez, il y a un peu de... Comment je vous dirais bien ça? Il y a un peu de... les gens sont honnêtes. On part du principe au gouvernement que les gens sont honnêtes et qu'ils ne feraient pas ça.
OK, ben on est dans l'aveuglement volontaire. Dans le fond, là, on sera pas capable d'arrêter le crime organisé avec ça?
Ben, on verra. L'avenir nous le dira, ça, Mme Segal. Mais il restera toujours que, par exemple, les mineurs, qui sont une grande partie des consommateurs de marijuana au Canada, ben, ces jeunes-là, entre 14, 15 ans et 18, ça change rien pour eux, la loi, là. Alors, quand on entend le gouvernement nous dire que c'est pour protéger nos jeunes, c'est bizarre, c'est parce que ils peuvent pas aller dans les SQDC, puis c'est bien correct, là, parce que tous les spécialistes le disent, là, les dangers que représente la marijuana avant l'âge de 21, 22 ans, avant que le cerveau soit complètement rendu à maturité, on le sait. C'est pour ça que les gens se trompent souvent en comparant ça à l'alcool. La marijuana a des effets pervers différents, a des effets à long terme différents.
Mais le problème, c'est qu'un verre d'alcool, moi, je suis capable de prendre un verre de vin au souper, puis une heure après, je sais que j'ai plus d'alcool dans le sang. Ben, tandis que le joint de Marie, je le sais pas.
Sans compter les produits sous-jacents dans la consommation. Hein, vous savez, on se bat contre la consommation de la cigarette parce qu'il y a tellement de produits chimiques. Ben, dans un joint de marijuana, c'est encore pire. Alors ça, il faudra voir avec les spécialistes. Puis une des grandes craintes, M. Lavoie, en plus du traquage, entre guillemets, de la substance, ben c'est bien certain que c'est les impacts que ça va avoir sur la conduite automobile et le taux des accidents, le nombre de personnes sous influence qui vont se retrouver sur les routes. Ça, il n'y a pas d'erreur. Dans l'État de Washington, dans l'État du Colorado, c'est des augmentations importantes.
Mais M. Brochu, moi j'ai lu, là, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, qu'au Colorado, il y a une baisse de consommation.
Il y a une baisse de consommation chez les jeunes, mais il y a une. Vous avez raison de le dire. Il y a une baisse de consommation chez les jeunes, sensible cette année, mais il y a quand même, au niveau des accidents d'automobile, une augmentation continuelle qui va jusqu'à 37%.
Mais là où je. Évidemment, je me fais un peu l'avocat du diable, mais le fait est que c'est pas zéro. Avant la légalisation, là, parlons des 5 dernières années, là, avant la légalisation. Puis les 10, puis les 15, puis les 20 dernières années, il y en avait du monde qui conduisait des autos en ayant fumé du pot. Il y en avait.
Vous avez raison. Et un des aspects qui est difficile à évaluer dans ces statistiques-là, c'est le fait que les policiers sont plus sensibilisés qu'avant, justement, à la détection de tout ça. Alors, il est possible que des accidents dans le passé soient passés sous le radar, par exemple, que la personne était sous l'influence du cannabis. Vous avez raison de le souligner. Donc, c'est ça qui rend qu'il faut prendre les statistiques avec un grain de sel. Mais à tout événement, le nombre total d'accidents, pas mortels, mais d'accidents, de collisions, augmente quand même dans les deux États. Alors, on peut penser que effectivement. Puis si on parle entre hommes là, plus on a de produits intoxicants disponibles sur le marché, plus il y aura de chances que des gens soient intoxiqués au volant, parce qu'on le sait, même avec l'alcool au volant, on aura toujours nos irréductibles. Puis dans le cas de la marijuana, M. Lavoie, c'est encore plus insidieux parce que l'effet. Les gens n'ont pas vraiment conscience que leurs facultés sont affaublies.
Non, il y en a beaucoup qui m'ont ostiné, qui sont meilleurs conducteurs quand ils sont en train de
jouer. Mais voilà, c'est que les gens ont. L'effet est insidieux, l'effet est moins clair, si on veut, que l'effet donné. L'alcool, ça paraît, là. C'est facile de détecter que ton voisin est chaud, ton ami à table, là, il est chaud, il en a assez pris. La marijuana. C'est très difficile. D'ailleurs, on le voit, ça prend une formation d'agent détecteur pour les policiers et ça prend une formation de 3 semaines d'agent évaluateur. Et on verra les résultats à long terme devant les tribunaux. Là, ça sera une autre affaire. Il y en a quelques cas là, où les gens ont été condamnés, là, mais on va voir. Ça va être contesté de plus en plus puis ça sera pas facile. Quant aux appareils de détection, vous le savez, il en existe un présentement qui est autorisé. Il y a deux problèmes. Un, il est très cher pour les organisations policières, pour les gouvernements provinciaux, c'est beaucoup d'argent. Et également, l'appareil gèle. Il y a de la misère au froid.
L'appareil fume-t-il?
Je veux pas faire du mot noir, mais pour détecter si quelqu'un est gelé, si l'appareil gèle, ça va pas bien.
Hey, merci beaucoup, Jean-François Brochu.
Bonne journée.
Ex-policier et bien au fait de tout ce qui se passe dans le monde policier. Tu vois que les défis...
Très intéressant, cet homme-là.
Les défis sont pas terminés là, pour les policiers.
Très et intéressant, ce gars-là.
Plus ça avance, plus je pense qu'on va complètement rater l'objectif. Le crime organisé va être mort de rire. Il est juste rentré dans des entreprises qui sont maintenant légales.
C'est ça.
T'sais, oh, c'est bizarre.
Mais c'est ça.
Midi 58 minutes.